Où sont passés les Romains? À la découverte de Muséal.
Cet été, où sont passés les Romains s'intéresse à la fabrication du vin. Comment fabrique-t-on du vin aujourd'hui? Y a-t-il de grandes différences avec le vin de nos ancêtres gaulois et romains? Nous irons du côté de la cave des vignerons d'Alba la Romaine pour avoir quelques éléments de réponse. Là-bas, nous attend l'œnologue Thomas Auchando. On le rejoint, c'est après l'agenda de Muséal que voici. Atelier, visite et nocturne du mardi harmonise le calendrier estival du pôle archéologique départemental Muséal. Atelier tout d'abord. Ils ont lieu les mardis et jeudis de l'été à 14h30. Ils sont ouverts aux enfants dès 4, 6 ou 7 ans selon la complexité. Au menu, un atelier sesterce et compagnie pour parler monnaie d'échange au temps des Romains, atelier fouille archéologique pour découvrir des trésors cachés, atelier les experts enquête, le raisin dans tous ses états pour éveiller vos sens ou encore l'atelier amphora pour réaliser son amphore en argile. Ces ateliers sont à partager en famille, participation aux frais 6 euros. Les visites commentées à présent. Celles du musée ont lieu cet été tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 14h30. Elles peuvent être couplées à celles du site antique qui ont lieu juste après, à 16h, les lundis, vendredis et dimanches. Coût par visite 4 à 7 euros, coût jumelé 6 à 11 euros, c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Enfin, place cet été chaque mardi jusqu'au 23 août au nocturne. Elle se déroule généralement au théâtre antique. Ainsi, ce mardi 26 juillet, c'est un concert musique et vin qui vous attend dès 21h. Mardi 2 août, vous êtes invité pour une observation du ciel. Attention, on débute à 20h56 précise. Mardi 9 août, meurt d'heure partie avec deux rendez-vous ce jour-là. 18h puis 21h. Enfin, mardi 16 août, théâtre masqué autour des fourberies de Scapin. Puis mardi 23, cinéma sous les étoiles avec la projection du film « Ce qui nous lie » de Cédric Clapiche. Participation aux frais par nocturne de 4 à 6 euros. La billetterie se situe à l'accueil du musée, sauf pour le théâtre masqué du 17 août. Le billet inclut la visite du musée le jour même jusqu'à 21h. À l'heure de l'exposition temporaire « Grande terre de vin » qui est à découvrir actuellement à Muséal, intéressons-nous à la fabrication du vin. Mais avant de comprendre comment il est travaillé, créé aujourd'hui, demandons à l'œnologue de la cave des vignerons d'Alba, Thomas Auchando, si le vin d'il y a 2000-2500 ans se fabriquait de la même manière.
Oui, j'étais pas là il y a 2500 ans, hein. Mais globalement, oui, c'est toujours, on fait du vin à partir de raisins. Il faut d'abord commencer à la culture de la vigne, avoir une vigne qui est en bonne santé, sans maladie, qui a tous les éléments nutritifs pour bien pousser. Et à partir de là, on a des raisins qui arrivent avec un certain niveau de maturité. Comparé à il y a pas mal d'années, on est peut-être aujourd'hui de plus en plus précis sur la maturité, puisqu'on a réussi à... Donc ça, c'est plutôt le travail des scientifiques, à corréler un niveau de maturité, c'est-à-dire un niveau de sucre avec des niveaux de paramètres comme l'azote, tout ce qui est précurseur aromatique, avec l'évolution dans le vin derrière. C'est-à-dire que tout le processus de vinification va permettre de révéler plus ou moins le potentiel aromatique des cépages ou le potentiel de maturité, c'est-à-dire tout ce qui est les polyphénols. Aujourd'hui, voilà, on est plus précis sur les niveaux de maturité et les produits qui sont derrière. Là où avant, on allait ramasser peut-être tous les cépages un petit peu en même temps ou avec des amplitudes beaucoup plus larges. Aujourd'hui, les techniques, donc mécanisation, permettent de ramasser sur des laps de temps très courts, donc de cibler l'optimum de maturité des raisins. Et à partir de là, quand on a des bons raisins, en général, on arrive à faire du bon vin. C'est beaucoup plus facile.
Est-ce qu'on était vraiment dans du vin il y a 2000 ou 2500 ans? Parce qu'on mélangeait tout, les cépages étaient mélangés, on avait certainement des problèmes de transport, on avait des problèmes de conservation. Tout ça, ça devait jouer.
Oui, oui, le vin d'il y a 2000 ans était forcément très différent du vin de maintenant. Il était souvent, en plus, je pense, coupé un petit peu à l'eau avant. Aujourd'hui, maintenant... On est sur quelque chose qui est très normé, où on sépare beaucoup les cépages au niveau de la récolte, puis après on fait des assemblages, donc ça permet d'avoir des vins qui sont très différents, avec des spécificités de chacun cépage en termes d'aromatique. Et dans les techniques même de conservation, c'est là où ça a le plus évolué. Aujourd'hui, on arrive à conserver des vins, à les protéger de l'oxydation, donc on va les faire durer beaucoup plus longtemps, alors qu'avant, dans des amphores, en terre cuite qui laissait passer beaucoup l'oxygène, les vins se dégradaient plus rapidement.
Faire un bon vin, c'est déjà avoir de bons raisins. Et pour avoir de bons raisins, il faut en amont réfléchir au rendement à l'hectare. Et pour ça, on peut la jouer plus ou moins serrée entre les rangs de cèpes. C'est le début de la fabrication.
Alors en gros, la densité de plantation, elle va influer sur donc le rendement global de la parcelle, mais aussi sur le nombre de grappes par cèpe. Vous pouvez imaginer un peu comme les fondations d'une maison. Plus je vais avoir de petits plots un petit peu partout sous ma maison, mieux la charge va être répartie, donc moins la vigne va souffrir, et plus les raisins vont être homogènes. Donc c'est pour ça que dans les grands vignobles, souvent il y a une forte densité de plantation. Dans les grands crus bordelais, on est proche de 10 000, en Champagne, on est proche de 10 000, en Bourgogne aussi. Et là, on va avoir des rendements qui sont moyens, voire élevés dans certains cas, mais avec un nombre de grappes qui est assez limité par souche. Alors que quand on a des vignobles qui sont plantés avec des plus faibles densités, forcément, pour avoir de gros rendements, il va falloir multiplier le nombre de grappes. Ça peut créer aussi des entassements, donc une difficulté de maîtriser l'état sanitaire jusqu'au bout de la récolte.
Qu'est-ce qui se passe après?
Donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné nos parcelles qui sont homogènes en termes de maturité, et c'est ça qui est important, c'est avoir un groupe de parcelles homogènes, on les vendange plutôt mécaniquement, donc on est assez rapide pour vendanger un hectare, on met à peu près 2 heures. Donc ça veut dire qu'en 2 heures, on a les raisins qui arrivent à la cave, et nous on va les traiter assez rapidement. Si on fait du rouge, on les encuve de suite après juste un égrappage et un foulage pour commencer à libérer un petit peu de jus. Et ensuite, pour les blancs et rosés, au lieu de les mettre en cuve, on les met dans le pressoir. Et là, plus les pressoirs sont remplis rapidement, plus les jus s'écoulent vite, moins ils ont le temps de s'oxyder. Donc du coup, on garantit la partie oxydation, donc fraîcheur des vins. Et pour les rosés, on va mieux maîtriser la couleur, puisque le rosé, le jus se colore au contact des pellicules. Et plus on va laisser macérer, plus le jus va être coloré.
Vient ensuite la clarification et la première fermentation.
Pour les blancs et rosés, une fois qu'on sort du pressoir, il y a une étape de clarification qui est importante. C'est-à-dire que le pressoir broie un petit peu les baies avec des fragments de pellicules. Donc on clarifie les jus pour vraiment avoir quelque chose d'assez limpide, mais pas trop, parce qu'il y a quand même des éléments nutritifs importants pour les levures. Mmh. Et au bout, en général, de 12 heures, la partie claire est mise en cuve et mise à fermenter. Et pour les rouges, on lance la fermentation rapidement dans les heures qui suivent l'encuvage. La première fermentation, donc, c'est la transformation du sucre en alcool, en éthanol. Et une fois que cette fermentation est finie, sur les rouges, obligatoirement, on fait une fermentation malolactique. Donc ça va convertir l'acide malique en acide lactique, qui est donc un niveau d'acidité qui est plus faible et qui va adoucir, arrondir le vin. Pour les blancs et les rosés, cette fermentation malolactique se fait plus en fonction de la matrice et du niveau d'acidité globale du vin et du profil de vin recherché. Sur les vins en général de garde et les vins plutôt premium, on va avoir tendance à favoriser des fermentations malolactiques parce que ça va amener de la complexité aromatique et surtout plus de rondeur.
Place ensuite à l'élevage. Il connaît des périodes très variables selon que les vins soient blancs, rosés ou rouges et surtout qu'ils soient plus ou moins tannique. Et cela se fait par cépages séparés, comme nous le confirme Thomas Auchando.
Oui, on vinifie tous nos cépages séparément. Par exemple, sur la cave en rouge, on a du Merlot, de la Syrah, du Cabernet Sauvignon, du Pinot, du Grenache. On va vinifier ces cépages de manière séparée. Et en fonction des objectifs de produits derrière, on va faire des assemblages pour aller chercher justement le bon profil aromatique. Ou au contraire, mettre en valeur un cépage particulier parce que l'année aura été propice à ce cépage.
Finalement, entre hier et aujourd'hui, c'est la technique qui a fait évoluer la manière de produire du vin.
Globalement, on va dire, le principe de base reste le même, sauf qu'aujourd'hui, on a étudié toutes ces choses qui étaient faites de manière empirique, et on a pu mettre derrière des concepts un peu plus scientifiques qui ont permis de réfléchir et de dire, pour arriver à avoir un bon vin, il faut faire telle étape, telle étape et telle étape. Donc c'est comme ça aujourd'hui, on va arriver à suivre des schémas de vinification pour nous conduire au but recherché.
Merci à Thomas Auchando, œnologue pour la cave des vignerons d'Alba. Vous retrouverez au caveau des vignerons, à quelques encablures de Muséal, les produits de leur récolte et de leur travail de transformation. Sachez encore que tout au long de l'été, Muséal et la cave des vignerons d'Alba s'associent pour une promenade autour de la pierre et du vin, une proposition faite chaque mercredi à 10h30. Dégustation de vins et produits locaux et romains en fin de visite. Durée 2 heures, tarif 3 à 5 euros. Attention, le départ se fait depuis le caveau. Où sont passés les Romains ? C'est terminé pour ce mois de juillet. On se retrouve fin août pour encore parler vin. D'ici là, bel été à Muséal et sur le site antique d'Alba.